Saint-Martial, tu peux nous parler un petit peu? Parce que c'est, finalement, ça a disparu. L'endroit où tout ça se passait, ça a disparu, malheureusement.
Ah ben, c'était Place de la République, à Limoges. Et cette pauvre place, elle en est orpheline de Saint-Martial, qui a été détruit pendant la Révolution, qui n'aurait pas dû l'être, qui a été détruit par un sentiment très fort anti-religieux, jacobin. Et c'est bien dommage, parce que c'était l'âme de Limoges, quoi. Et ça dépassait bien le fait religieux, quoi, le fait chrétien. C'est absurde de ne pas avoir compris ça, quoi. C'était une très vieille abbaye, donc qui est là, donc il y avait une église et son abbaye, une église de pèlerinage, puisqu'on était sur les chemins de Saint-Jacques. Et là, il s'est passé quelque chose, quoi. Il y a eu une école de Saint-Martial, une école musicale, et à la fois autour, il y avait les scriptoria, donc il y a eu tout un travail de on a fabriqué des manuscrits enluminés, etc., avec des illustrations. Donc il y a eu l'orfèvrerie. On connaît déjà en Limousin, dès le VIe siècle, Saint-Éloi, qui est un orfèvre, qui devient ministre de Dagobert et puis d'un autre, et qui est d'ailleurs le... Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il est le saint patron des orfèvres, mais pour nous, c'est des forgerons. Et en fait, cet Éloi, qui était un orfèvre tout à fait renommé, cet Éloi a été un de ceux qui ont fait le plus la guerre aux pratiques païennes, qui étaient pour détruire les lieux de culte, etc. Et le peuple s'est vengé, puisqu'on l'a transformé en patron des forgerons, et on lui a donné tous les attributs de l'ancien dieu forgeron celte. Donc on s'est bien vengé de lui. Et c'est pour ça qu'il y a la Fonfaure et qu'il y a plein, il y a tout un truc dans notre région, alors où le culte de Saint-Éloi. Mais c'est le bon forgeron, c'est le forgeron. Et c'est le forgeron ancien.
Et le rapport de la forge et de la musique, parce que ça c'est aussi...
Ah ben il y a un rapport fort, oui. Mais la forge, c'est tellement riche. Hein. C'est les maîtres du feu, tout ça, sont des gens souvent... qui sont à la fois dans la société, en marge de la société, souvent sorciers, souvent des gens dont on se méfie.
Le Limousin est une terre de forge.
Oui, et une terre de sorciers.
Une terre de sorciers.
Mais une terre de forge, oui, bien sûr. Une grande terre de forge. Mais donc, les troubadours, oui, et tout ça se mêle. Dans mon esprit, si tu veux, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas... Et puis je me balade au XIe siècle, je me balade aujourd'hui un peu à contre-courant de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est vrai que je vis beaucoup, hors du temps, et je suis dans ces temps un peu qui sont effectivement, qui finissent par être des temps mythiques, quoi.
Et évidemment, les troubadours, c'est aussi la langue et la poésie. Mais c'est aussi une idée politique. Est-ce que ça rejoint quelque chose ?
C'est pas une idée politique, c'est une idée, c'est une poétique qui dépasse ça. Il faut savoir une chose essentielle. Quand les troubadours, l'art des troubadours est né à la fin du XIe siècle. Il y a deux grandes figures, Guillaume de Poitiers, donc le duc d'Aquitaine, un grand seigneur, dont les terres sont bien plus, plus étendues que celles du roi de France, dont il dépend pourtant. Mais le duché d'Aquitaine, c'est à peu près la région nouvelle d'Aquitaine d'aujourd'hui. C'est très grand, très très grand. Ça jouxte au comté de Toulouse, etc. Et donc, il y a Guillaume d'Aquitaine, dont il nous reste, parce que c'était le grand seigneur, et qu'on a noté ses chants, donc il nous reste une douzaine de chansons de lui. Et il y a son ami, qui est le duc de Ventadour, Eble le chanteur, Eble le cantador. Donc c'est Eblun de Ventadour, celui qui va former notamment Bernard, le grand Bernard de Ventadour. Donc il va y avoir deux écoles, une école à Poitiers et une école à Ventadour, et puis aussi des écoles, notamment à Limoges, à Saint-Martial. Mais c'est là qu'on apprend cet art du chant, parce que ça s'apprend. C'est comme tout, c'est comme pendant très longtemps, pour être peintre, il fallait appartenir à une guilde, etc. On apprenait, après on avait du talent ou du génie ou rien, mais on avait appris un métier. C'était une obligation d'apprendre le métier. Là aussi, ça s'apprend, ce métier. Et chez les troubadours, il y a des grands seigneurs, mais il y a aussi des gens, Marc Abrus, et il est né dans le ruisseau. Je veux dire, il y a des gens qui sont, il y a de tout. Il y a des bourgeois ou sans habitants des villes, et puis il y a aussi des seigneurs de toute hiérarchie, et puis des gens du peuple, quoi. Un bourgeois de la ville d'Uzerche, comme Gaußen Feydit, qui est un très grand troubadour, mais qui a peu de succès, qui n'est pas riche. Ils sont riches ou pas riches, ils ont du succès ou pas de succès, mais c'est tout, c'est la grande variété de ces gens-là. Alors là, moi, c'est ça qui va me nourrir à partir de 1979. Alors, ces troubadours, ils ont l'équivalent, mais qui arrivent un peu plus tard au nord, on appelle les trouvères. Ce sont des gens qui trouvent, quoi. Parce que ça veut dire trouba. Et trouba, ça vient aussi de tropare. C'est de faire des tropes. Donc on voit bien la liaison avec la musique religieuse.
Qu'est-ce que tu entends par trope, toi, pour être.
Et qu'est-ce que c'est qu'un trope? Un trope, ça part généralement de l'alléluia. Les alléluia. Il y a une espèce de création continue du chant religieux dans les derniers siècles du premier millénaire, où petit à petit, ça prend tellement d'envergure, ces mélismes, mais autour du ah, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus se souvenir de cette subtilité, donc on met des paroles dessus. Les premiers tropes sont pour se souvenir. C'est des paroles, bien sûr, qui ont un rapport avec la religion, mais pour se souvenir de tout ce travail autour des A de l'Alléluia. C'est un truc de mémorisation. Et puis petit à petit, ça devient de véritables chansons. Et puis un jour, elles se détachent de l'Alléluia et elles deviennent quelque chose d'indépendant. Jusqu'au jour où des conciles disent non, non, il faut foutre un peu de. Il faut arrêter parce qu'on ne sait plus où on en est. Donc on va supprimer tous ces trucs qui deviennent finalement très peu religieux à la longue parce qu'on se fait plaisir à ce qu'on dit dedans. Voilà. Mais donc, c'est cette espèce de. Donc, c'est trop paresser, en fait, trouver. Créer de la musique. Et donc, c'est ce terme, on pense, qui a donné trouba, trouba qui veut dire aussi trouver tout simplement en occitan. Mais c'est tropare et c'est trouver aussi. Et donc, le trope, on le pense que c'est le même mot, quoi.
Et du coup, ça m'amène à te poser la question de l'improvisation. Parce qu'au fond, derrière cette pratique du trope, il y a le phénomène de l'improvisation, du soliste qui se laisse aller, qui donc se laisse venir, hein, on pourrait dire aussi. Donc laisse venir l'inspiration. Il y a quelque chose quand même, bon, je n'irai pas jusqu'à dire chamanique, mais on n'est peut-être pas très très loin. Et donc, est-ce que toi tu as eu une pratique de l'improvisation? Comment tu la conçois, l'improvisation?
Ah ben je l'ai pratiqué beaucoup dans certaines choses, ben musicalement plutôt, instrumentalement plutôt. L'improvisation, je l'ai pratiqué beaucoup à la vielle. À une époque, c'est plutôt instrumentalement que j'ai. Mais dans le chant, justement, si on revient au troubadour, donc. Un siècle après eux, on note leur chant parce qu'on sent cette civilisation est morte et qu'il faut sauver les choses. C'est de là que datent les manuscrits, pas de l'époque des troubadours, c'est bien postérieur. Et donc là, qu'est-ce qu'on. On note la mélodie. Mais bien sûr qu'il y avait de l'improvisation aussi. Le chanteur, il pouvait improviser. Il pouvait improviser. Souvent, il était musicien aussi. Il pouvait faire il y avait des choses entre les couplets. Il y avait de la musique. Ça pouvait être du chant aussi. Ça pouvait être à la voix. Ça, on ne sait rien. On se doute, on le pense. Mais ça n'a pas été noté. On n'avait pas à noter ça puisque justement, c'était libre. On note la ligne mélodique et après. Tout le reste nous échappe. On peut penser décemment, mais ce que je voulais dire au début et que après ça a dévié, c'est surtout quand tu as parlé de politique, il faut savoir donc il y a les troubadours et peu après les trouvères. au XIIe siècle, les troubadours naissent un siècle avant, quoi. L'art du trouba, cet art de la fine amour, ça naît vraiment en Occitanie à cette époque-là. L'Occitanie conçue aussi englobant l'Aragon, la Catalogne, jusqu'au Portugal. Enfin, je veux dire, toutes les terres du sud sont baignées par cette culture. Hein. Il y a des troubadours de l'autre côté des Pyrénées, et il y en a aussi en Italie, dans les Piémonts et même au-delà. Donc c'est quelque chose qui essaime. Et bon, après, il y a les trouvères, mais au nord comme au sud, il y a des dialectes déjà. C'est-à-dire que l'occitan, au XIIe siècle, il y a déjà le provençal, différencié du languedocien, du gascon, de l'auvergnat, du limousin. Il y a des dialectes différents. Comme au nord, il y a le berrichon, le bourbonnais, il y a le normand, il y a le lorrain, etc. Et puis le picard, surtout, qui est le grand dialecte littéraire de l'époque pour les pays d'Oïl. Eh bien, au nord, où il y a une unité politique, il n'y a pas d'unité du langage des trouvères, c'est-à-dire qu'un picard ne crée pas dans le même crée dans son dialecte, comme un berrichon crée dans le sien, c'est pas une unité linguistique, c'est des différenciations dialectales. Or, au sud, où il n'y a pas d'unité politique, il y a une unité poétique. C'est-à-dire qu'un troubadour de Provence, ou de Gascogne, ou du Limousin, ou d'Auvergne, il écrit exactement la même langue.
Ah oui.
Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est un cas unique. Et alors, c'est ça, unité politique, pas d'unité poétique. Et là, ils ont fait leur unité par volonté poétique. Et ça, je trouve ça admirable, finalement. Mais ce n'est pas ça qui lutte bien contre les armes.
Ça, c'est contre. Sûr. On a connu ça, oui, effectivement, le comté de Toulouse. Bon, tu nous ferais une improvisation ?
Oui, je peux, bien sûr, je peux toujours faire.
Thank you.
peut continuer. Hein.
Ah oui, tout à fait.
Mais en plus, je n'avais pas prévu, donc je n'avais pas accordé ma troisième corde.
Ah oui, mais c'est pas grave, ça fait partie de... Tu as dit que l'accord faisait partie de la musique, donc... Bon.
Donc et au milieu, c'est un peu embêtant.
Ah bon, bon. Non, non, mais c'est, on voit bien que l'instrument a des possibilités qu'on n'entend pas. Enfin, sur une pièce donnée, c'est restreint, quoi. C'est-à-dire que ça peut aller beaucoup plus loin. Que... D'ailleurs, tu joues assez peu les notes aiguës.
Là, parce que j'avais peur que ça soit. Que je ne l'ai pas bien. J'ai pas vérifié l'accordage très haut, donc j'avais peur que ça soit faux. Oui. C'est pour ça que je ne suis pas. Sinon, je peux aller très. J'utilise quand même mes deux octaves.
Oui, c'est très particulier parce que c'est à la fois un clavier et comment tu le conçois en fait, c'est un clavier au fond.
Mais oui, c'est un clavier, mais c'est un clavier aussi qui est un peu plus aléatoire que le clavier du. D'abord, on règle les sautres comme on veut. Ils sont, tu vois, ils sont pas. C'est quand même. C'est, on peut jouer là-dessus. Et selon sa sensibilité, son oreille, on peut jouer. On n'a pas des sons absolus, si tu veux. Surtout si je joue seul. Et c'est le cas, là. Mmh. Je joue seul. J'ai pas. Alors, c'est vrai que ce putain d'accordéon diatonique, lui, il est toujours accordé, si tu veux. Mal, souvent, d'ailleurs, en plus. Mais il est accordé. On est obligé de se fixer là-dessus. Et c'est, alors que ce n'est pas le cas, justement, de... Moi, j'accorde ma vielle d'oreille et à mon oreille.
À ton goût, quoi. Oui.
À mon goût. Bien sûr que c'est pas senti comme quelque chose de faux, mais ça peut être senti comme quelque chose d'un peu qui varie un peu avec une espèce de ce que les gens peuvent avoir dans la tête de justesse absolue, quoi. Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui s'occupent de chabrettes aujourd'hui. Ils disent, ah oui, mais alors, pour obtenir un son juste, les anciennes chabrettes, c'était pas toujours juste. J'essaie de leur expliquer que ça n'avait pas à l'être. C'était une autre forme de justesse. C'est pas la justesse de mathématique qu'on exige aujourd'hui. C'est une autre manière de concevoir la musique. Mais ça, il n'y a pas moyen. Et puis, à tout prix, il faut faire de la musique à 50, donc... Donc effectivement, il faut des règles absolues pour que ça ne soit pas insupportable. Mais c'est pas... Moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse plus, c'est ça.
Et cette mise en règle, en fait...
Mais tu vois, regarde, par exemple, justement, quand on parle de l'ambitus des choses... Par exemple, le parpaillat, le papillon, tu vas voir, il se joue à rien, à quatre notes, cinq notes avec la corde à vide. Mais c'est ça que j'aime bien, moi, quand les choses sont très resserrées comme ça. Ça, tu le joues, tu pourrais. Alors, une bourrée, c'est ça, je te les ai jouées trois fois, mais il faut jouer ça 20 fois, 30 fois, petit à petit, c'est cette espèce de pulsation. Doum, 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 doum. Il faut que ça s'installe, quoi. Ça, j'aurais des heures, tu vois. Mmh. Et c'est le parpaillau, c'est tout simplement le vol du papillon.
Et justement...
Et ça, alors, c'est, tu vois, c'est, oui. C'est rien. Ma main ne bouge pas, quoi.
Oui, mais du coup, alors, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir parler du problème de la répétition, qui est un problème très fort et très, très important. Mais moi, l'impression que j'ai eue en t'écoutant, là, c'était qu'au fond, il se passait dans le domaine du rythme exactement la même chose que dans le domaine des hauteurs. C'est-à-dire que tout était des questions de micro-déviation, ah de oui, dissymétrie, parce que pour que ce soit intéressant avec une telle limitation, il faut bien qu'il y ait une dimension musicale qui...
À chaque reprise, je change.
Voilà, c'est
ça. Il y a une petite variation de rythmique, voilà, ou un suspens sur une note.
C'est ça.
Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça que ça s'inscrit dans la durée. Justement. Il faut que tu joues parce que petit à petit aussi les choses te viennent. Oui. Parce que tu te chauffes, tu rentres dedans et les décalages se font naturellement. On est toujours dans cette pulsation essentielle.
Alors justement, oui, c'est ça, c'est le rapport entre ces deux choses-là qui a l'air un peu contradictoire en fait, au fond. Entre quelque chose qui est.
Non, parce que derrière, il y a toujours. Mais on a toujours ce rythme essentiel, c'est-à-dire qu'il est aussi, des gens peuvent danser, ils danseront là-dessus, même avec les variations, naturellement, ça ne gêne pas du tout. Ouais. Ils jouaient là.
Le rapport au corps, alors c'est pourquoi c'est comme ça en fait.
Mais déjà le corps du musicien, lui, il danse aussi, hein. Tu es là, tu danses aussi en même temps que tu joues, quoi. Un musicien traditionnel, il danse en même temps qu'il joue, quoi. Et le corps, alors, ça, c'est... Je crois que là aussi, c'est... Alors, cette histoire de danse aussi, de bourrée pour nous, qui est notre danse, quoi. Le reste, c'est des danses pour s'amuser. Mais ça, c'est pas pour s'amuser, quoi. C'est une danse d'expression, la bourrée. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire là, sur ça. Parce que aussi, c'est quand je regarde des jeunes qui dansent aujourd'hui, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça parce qu'ils n'ont pas le rapport au corps qu'on avait dans une certaine société, avec certains travaux qu'on faisait, avec une certaine façon de vivre, avec tout est lié, si tu veux. Et par exemple, quand voilà. Il n'y a pas là. Maintenant, les gens qui pratiquent la danse traditionnelle, ils ont une vie tout autre, qui n'a rien à voir avec cette danse-là, avec la bourrée. C'est-à-dire ils ont des activités professionnelles qui sont bien loin de ce que pouvait vivre un Limousin qui était à la fois maçon, paysan, qui savait tout faire, qui faisait venir son chambre, etc., qui avait une manière d'habiter, qui avait créé un habitat, qui avait une manière d'habiter son corps, de se tenir dans son corps, d'habiter sa maison, etc. Tout ça est lié. Tout ça est lié. Ça veut dire habiter sa maison, danser la bourrée, la jouer, la chanter, s'habiller d'une certaine manière, avoir tissé ses vêtements, tout ça c'est un ensemble culturel qui ne peut pas être différencié. On ne met pas les choses comme ça. Or maintenant, la danse est devenue un loisir, mais ce n'est pas un loisir, quoi. Donc on a sa petite, ses heures de bureau ou de je ne sais quoi, et puis après on va faire. Alors il y en a qui font de la danse traditionnelle, d'autres qui vont faire du yoga, d'autres qui font de la peinture sur soie ou je ne sais pas quoi. Enfin, chacun fait son petit truc, mais on est dans une société avec ça, c'est à part, on se fait plaisir, là on se bidouille son petit truc pour se faire bien, ou alors le développement corporel, etc. Mais les gens...
Tu m'avais expliqué d'ailleurs qu'une partie de ces danses, on enregistre ici, on est dans une ancienne grange, et il y a une autre grange à côté où il y a encore la terre battue. Et tu m'avais...
Ah ben on battait la terre même comme ça, oui. C'est-à-dire, ça se faisait aussi partout, ça se faisait en Bretagne beaucoup, c'est-à-dire quand on créait une grange, donc il fallait une aire de terre battue, donc on mettait de la terre, et ensuite les gens pendant des jours entiers dansaient dessus pour tasser la terre, pour faire une terre battue, quoi, qui ne bougerait plus d'ailleurs, qui serait très dure, qui serait vraiment... Donc bien sûr que c'était mais les granges étaient des lieux, de toute façon, des hauts lieux culturels, et les étables aussi, puisqu'on sait bien que souvent les gens pour avoir la chaleur des bêtes, veiller au milieu des bêtes, veiller d'hiver. Mais l'importance de la danse, alors c'est vrai que je l'ai souvent raconté cette histoire, mais il faut bien la raconter une fois de plus. Avec Serge, on était allé sur les pentes du mont Lozère. C'est là-bas que j'ai vu les plus grands danseurs de bourrée. C'est là-bas, ils sont renommés. Les gens du mont Lozère sont les plus grands danseurs de bourrée qui soient dans tout cet espace montagnard du centre. Et donc, on est invité pour faire une soirée. Alors, on fait une partie, ça se passe dans une salle de classe. L'institutrice qui a une classe unique et qui a un appartement de fonction au-dessus a débarrassé tout à la classe, la salle de classe. C'est là qu'il va y avoir la partie spectacle. On chante quelques chansons avec Serge et ensuite la partie bal. Donc, après la partie spectacle, on pousse les bancs, tout ça, pour qu'il y ait un espace pour danser et on attaque le bal. Donc je commence à jouer avec Serge, bourrée, parce qu'on n'est pas, on est au Mont Lozère, c'est pour danser la bourrée, c'est pas pour danser la polka. On va pas s'emmerder à aller là-bas pour faire danser la polka. Donc bourrée, personne ne danse. On recommence, allez bourrée, hein. Bon, deux, trois fois, personne ne danse. Alors je me mets en colère ou je fais semblant et je dis, bon écoutez, si vous voulez pas danser, nous on s'en va. On est venu pour mais jouez-nous une valse. Non, on n'est pas venu pour vous faire danser la valse, on est venu pour vous faire danser la bourrée. Si vous ne voulez pas danser, on s'en va. Donc je commence à plier, le Serge aussi, et on voit deux vieux, enfin deux vieux, pas si vieux, mais enfin si, des gens de en tout cas peut-être de mon âge maintenant, si tu veux. Qui, oui, peut-être bien quand même. Et alors il y en a un qui vient vers moi, l'autre qui va vers Serge et qui dit non, 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 ne partez pas, jouez, on va danser. Alors on ressort, c'est vrai, oui, on va danser. Donc on ressort, on joue la bourrée, et ces deux vieux se mettent à danser, tous les deux seuls. Et personne d'autre ne danse, et eux ne se regardent jamais. Mais alors, une merveille, ils s'entendent, c'est chacun sans se regarder, la perception de ce que fait l'autre, et c'est une espèce de... Ils nous créent quelque chose là-devant, devant un cercle de gens qui font cercle, et nous-mêmes on fait partie de ce cercle, sauf qu'on émet le son qui permet ça, et c'est tout à fait extraordinaire. Et ils dansent plusieurs bourrées. Alors après, du coup, on dit, bon, ben, on va jouer des valses, maintenant des polkas, que tout le monde danse. Mais ils ont dansé au début. Et bon, après, la soirée se passe. Ils redansent quelques bourrées. Tout le monde s'efface, alors, c'est eux deux. Et puis, elle a prévu un casse-croûte. L'instit, on monte dans son appartement de fonction. Et je lui dis, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Alors il me dit, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est que ces deux vieux, ils sont de familles qui sont brouillées depuis des générations. Donc ils se supportent pas. Mais ils savent qu'ils sont les deux seuls à pouvoir danser pareillement, quoi, avec la même qualité. Ils sont obligés de danser ensemble et personne ne dansera d'autre que s'ils sont là. Ils en sont malades de devoir danser ensemble, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ils ont résisté, mais quand ils ont vu que vous partiez, ce n'était pas possible. Donc, ils vous ont rappelé pour pouvoir danser. C'est, voilà ce que c'est que la danse. Si ce n'est pas ça, c'est rien du tout, quoi. Ça me fait penser aussi à ce personnage de Zorba, Alexis Zorba de Kazantzaki. Donc, il y a aussi la version qu'en donne Anthony Quinn dans le film, mais ça revient trois fois dans le livre de Kazantzaki. Zorba, au type qui arrive du continent, là, à un moment, au narrateur, il lui dit « Ce que j'ai à te dire est trop important, je vais te le danser. » Les mots ne sont pas, mais je vais te le danser. Quand on ne peut plus dire les choses, il faut qu'on les danse, parce que c'est plus fort que la parole. Eh bien, chez les gens qui sont encore dans cette tradition, j'ai vu les derniers. On est les derniers à savoir ça. C'était ça, la danse. Et si c'est pas ça, ben voilà, c'est la danse de salon. On est dans le loisir, dans l'agrément, mais on n'est plus dans l'expression profonde. Et on sent, je l'ai senti tellement souvent, quoi, que certains soirs, là, c'était deux, c'était un cas unique. Ces deux, ils étaient intouchables, quoi, pour les autres. Mais on sent qu'il y a certaines personnes, certains soirs, qui sont ceux qui peuvent porter la danse le plus loin. Et donc, toute la communauté qui est là pour danser le sent et s'élimine. Et c'est pas pour ça qu'elle est dévalorisée ou quoi que ce soit, parce qu'il y a besoin de ce cercle pour tenir les danseurs, pour les soutenir. Mais tu as deux personnes, tout d'un coup, qui se détachent, c'est elles qui sentent qu'elles peuvent porter la danse au nom de la communauté, parce que c'est l'expression d'un groupe, d'une petite communauté, jamais de milliers de personnes, mais d'un village. Et là, et ce soir-là, c'est eux qui vont porter les choses, et les autres attendront que ça se passe, parce qu'ils n'ont rien à dire qu'emmerder le monde, quoi.
Oui, c'est quand même un rapport très fort aussi. Finalement, on revient aux politiques, c'est-à-dire c'est, quand tu parles de communauté, c'est comment le corps se constitue dans un groupe. Et comme... Donc ça, ce serait peut-être une des fonctions les plus fondamentales de la musique, finalement, quelle qu'elle soit.
Peut-être.
Parce qu'au fond, si elle n'est pas là, ça ne se produit pas. C'est pas rien.
Mais peut-être que sans la musique, il y a des choses fortes qui se, bien sûr, qui se produisent en dehors de l'expression musicale, des choses. C'est un temps privilégié, le temps de la musique aussi, il faut dire. Hein. C'est que maintenant, les gens sont toujours dans la musique. Ils sont toujours avec un son dans l'oreille, ils vont dans ce qu'on appelle la musique, peu importe, dans quelque chose qui semble de la musique, un son organisé. Tu vas au supermarché, tu entends de la musique, tu vas partout de la musique, les gens, tu vois que des gens avec des têtes de Mickey dans la rue en train d'écouter quelque chose, quoi. Or, ça aussi, c'est important de le dire, c'est que dans la tradition, c'est pas toujours le temps de la musique. Il y a le temps pour la musique. Et donc, il y a le temps qu'on attend. Avec impatience d'ailleurs. Mais il y a le temps, c'est les fêtes, c'est les noces, c'est certains moments, donc certaines veillées, l'hiver. L'hiver, c'est le temps de la musique, parce que c'est l'hiver où on se resserre, et c'est l'hiver où il y a des choses qui sont... La musique de l'extérieur, la musique extériorisée, c'est pas la même non plus que celle de l'hiver, celle de la veillée, celle Non, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est des moments privilégiés. Et après, donc il y a ce moment fort de la musique, et après il y a l'après et la mémoire de la musique jusqu'à la prochaine fois. Mais on ne baigne pas toujours dans ce machin-là. Ça, c'est important de savoir ça. Il y a des temps sans musique. Il y a des temps de silence, des temps aussi où on ne supporterait pas la musique, parce que la musique, elle n'est pas pour tout le temps. Ce qui fait sa valeur, justement, c'est qu'elle est un moment privilégié. Alors peut-être un moment très fort où la communauté, ça lui permet d'aller un peu plus loin dans ses désirs, dans ce qu'elle est, etc. Ça se conçoit bien, traditionnellement, dans ce qu'en Limousin, on appelle un village, c'est-à-dire une communauté rurale de paysans.
Et tu parlais de
la... Mais en ville, ça se comptoie dans des quartiers très, très typés aussi. Hein.
Oui.
Dans les villes, à l'époque où les villes sont des cités. Mmh. Maintenant, on ne sait pas ce que c'est. Mais à une époque où il y a des vides quartiers qui sont comme des villages. Et là, il se constitue aussi des choses.
Tu veux dire des lieux où... Est-ce qu'il y a une relation avec le lieu? On peut faire de la musique partout. Ça, c'est un instrument, on le promène partout. Ce n'est pas un orgue.
Oui. Mais non, mais c'est pas des. Mais les gens se sentent, même s'il n'y a pas. On sait bien que les gens se sentent d'un village, même si ce village est peu différent de celui qui est à 10 km, n'importe. Les gens dans les quartiers, à Limoges, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait vraiment une vie de quartier. Il y avait des feux de Saint-Jean par quartier, par exemple. Et puis un beau jour, ça a été interdit parce qu'on allait foutre le feu, parce que ça allait faire fondre le bitume, etc. Mais il y avait des feux encore. De même qu'il y avait un véritable carnaval, quoi. Il y avait une vie sociale et une vie forte, avec les gens souvent appelaient encore leur quartier la commune libre d'eux, comme s'ils ne dépendaient pas de la grande ville, comme s'ils étaient eux-mêmes une entité politique, quoi. On se différenciait. Ça allait pas sans quelques bagarres entre quartiers comme entre villages aussi, hein. Tout ça, c'est un signe de reconnaissance. Il faut taper sur la gueule de l'autre.
Oui, tu parlais de la musique qu'on faisait pour des circonstances, donc la musique de mariage. J'ai jamais entendu parler de musique pour le décès. pourtant, la mort, enfin, c'est quelque chose de fort dans la culture limousine.
Je crois que ça a disparu. Je crois qu'il y a eu, on sait qu'il y a eu les pleureuses aussi.
Oui, on sait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait
exactement? Mais il y avait des pleureuses et des femmes qui étaient payées pour pleurer à la place de la famille. Ce qu'on a connu déjà encore, qu'on a connu maintenant, c'est en déperdition, mais c'est la veillée funéraire. C'est-à-dire, 3 jours, le corps du mort était à la maison. On allait veiller. On allait, on rentrait. Moi, je l'ai fait, je l'ai tellement pratiqué. On allait veiller le mort, c'est-à-dire qu'on allait... On arrivait dans la maison, on ne saluait personne, on allait dans la chambre. C'est-à-dire qu'on ne disait pas bonjour aux gens. On va dans la chambre, on honore le mort. Donc, on y va, on jette l'eau bénite, généralement il y avait encore ça, donc c'est aussi faire ce fameux signe de croix qui n'est pas un signe chrétien, mais qu'on prend pour chrétien, mais on est là et on reste quelque temps. Alors quelqu'un de la famille vient toujours pour te tenir compagnie, s'assied à côté de toi, et tu es là, tu regardes le mort, tu restes quelque temps, ou debout ou assis, et puis quand tu... Bon, c'est suffisant, il ne faut pas en rajouter non plus. Tu sors et tu vas dans la salle commune, dans la cuisine, dit la meijo, là où il y a la table où on vit, la salle où on vit, et là, tu parles. Tu parles, là tu dis bonjour aux gens, d'abord de la famille, etc. Et puis on parle, on veille un moment, on reste un moment avec les gens, on boit un coup, et puis on rit parce qu'on raconte des choses, des anecdotes plaisantes, et puis on pleure, et puis on fait tout, quoi. On fait revivre le mort. Et puis après, on s'en va. On revient, avant de s'en aller, on revient dans la chambre, on resalue le mort, et on s'en va. Et ça, donc, ça défile. Pendant 3 jours, tous les gens autour viennent.
Mais faire la musique.
Faire la visite. Et ensuite, il va y avoir l'enterrement, bien sûr, avec l'accompagnement au cimetière, etc. Et généralement, pour ce qui est le Limousin, les hommes ne rentrent pas dans l'église, mais les femmes, oui, quelques-unes, mais pas toutes. Mmh. Mais les hommes... préférant attendre dehors ou même allant au bistrot, le temps que l'office...
C'est toujours comme ça, hein, ici.
Ouais. Mais maintenant, comme il y a les trucs de condoléances, parfois à l'église et tout ça, les gens rentrent plus à l'église qu'ils ne faisaient dans le temps. Tout ça. Et puis, bon, il n'y a plus la veillée, c'est à la maison funéraire, etc. Que tu connais, Marianne Tixeuil, tu vois, ma guitariste. La Marianne, elle vient de perdre son mari. Son mari, le Georges, il traînait des cancers à répétition depuis 15 ans, et puis là, il a été emporté dans un grand état de faiblesse par un AVC. Et elle a tenu à ce que, de l'hôpital, on le ramène à la maison pour qu'il reste 3 jours. Mais il a fallu se battre avec les pompes funèbres qui ne voulaient pas. Et elle a tenu, elle a dit, mais si vous acceptez pas, j'en trouverai d'autres pompes funèbres. Vous n'êtes pas les seuls. Alors ils ont accepté. Et donc, il y a eu les gens, elle a dit, ça a été formidable, les gens sont venus, comme ça se faisait, généralement, ils sont venus, on a parlé, et puis c'est aussi un bon soutien pour les vivants, quoi. Et il faut savoir aussi qu'il faut décharger la famille de, justement, elle a son deuil, donc il faut qu'elle soit à son deuil. Et donc, il faut la décharger des choses, notamment... Les gens qui portent le cercueil, donc à l'époque où, comme je dis, ou comme ça s'est passé pour elle, le corps est à la maison, il y a des porteurs, ce sont les voisins, les plus proches voisins. Ça ne peut pas être des gens de la famille, jamais. C'est le voisinage. La famille, elle doit être à son deuil, elle aura bien assez de soucis après aussi à s'occuper des choses, mais là, il faut qu'elle soit libérée de ça, donc il faut que quelqu'un s'en charge. Et c'est la communauté. Les gens autour.
Mais là, la musique, elle est absente.
Non, il n'y a pas de musique. Mais il y en a eu sûrement.
T'es pas sûr. Parce qu'il y a aussi, tu vois, pour revenir à l'exemple grec dont je parlais, c'est que quand il y a un décès, par exemple, on ne peut pas chanter pendant un an. Donc ce silence de la musique, il est quand même aussi possible. Hein,
Oui, mais il y a la musique, ce qu'a apporté l'Église. Oui. Si on passe à l'Église, il y a de la musique, il y a du chant pour l'enterrement. Oui. Moi, je crois que c'est ce qui remplace le chant qui devait y avoir. Oui. Je suis sûr qu'il y avait, on est sûr qu'il y avait des pleureuses, en tout cas. Et le pleur est un chant. Parce que c'est un chant c'est pas le pleur que tu peux avoir, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est un pleur.
Une déploration.
C'est une déploration, oui, mais c'est un chant de déploration, quoi. Mais ça, il y a des témoignages, parfois des textes anciens, mais c'est bien sûr qu'on ne l'a pas connu. Et puis, il faut jamais perdre de vue qu'il y a eu cette terrible guerre de 14 qui a été qui a tout chamboulé, quoi. Parce que c'était trop, quoi. C'était trop. Et là, c'est aussi ce qui explique les femmes noires, hein. Toutes ces femmes en noir. Parce que quand tu regardes quand on décrit les paysans limousins au 19e siècle, même le préfet de la Haute-Vienne qui fait une monographie, Napoléon avait demandé des monographies sur leur département à tous les préfets, lui il fait une véritable étude ethnographique, le préfet Texier Olivier, et il parle des costumes des limousins et selon les arrondissements, c'est-à-dire que les costumes ne sont pas les mêmes à Bellac, à Saint-Thierry, à Émoutier, à Saint-Junien, c'est incroyable. Mais ces costumes-là, c'est les costumes de Bruegel, quoi. C'est des rouges, c'est des marrons, c'est des verts, c'est des bleus, on a des teintures, c'est coloré. C'est coloré, c'est pas, les gens ne sont pas en noir. Les gens ne sont pas en noir et blanc, ils sont dans des couleurs variées. Je te dis, tu te croirais dans une kermesse de Bruegel quand il te décrit ça. Et on sait bien que les gens, justement, les hommes notamment, ils avaient les cheveux très longs, tout le 19e siècle. C'est l'école publique qui leur met le crâne à zéro pour qu'ils n'aient pas de poux. Mais avant ça, on n'a pas... Et alors, c'est pour ça, même les très vieux, comme la marraine, justement, ma marraine, moi j'avais les cheveux longs quand j'étais jeune, ça la gênait pas parce qu'elle se souvenait des très très vieux qui avaient des cheveux comme ça. Et il est comme Abel Hugo, le fils de Victor, ou tous les voyageurs du 19e qui passent en limousin disent qu'on voit sur le pas des portes des vieillards avec de longues barbes et de longs cheveux qui leur donnent d'ailleurs un air de vieux sage, etc. Donc ça, c'est on a des représentations aussi qui sont très datées et qu'on prend pour quelque chose de pérenne. Mais les choses n'ont pas toujours été comme ça, il faut faire attention. Notamment pour la manière de se vêtir. C'est pas ce qu'on a connu, nous. Et de ce terrible, il y avait déjà eu la guerre de 70 qui a été très meurtrière, parce que tous les régiments mobiles des régions ont eu beaucoup de morts. Ça a commencé. Après 14, ça a été terrible. Et c'est là aussi que les gens, il y a eu des choses de cassées vraiment dans l'esprit des gens, parce que là, ils se sont rendus compte que tout pouvait finir, et qu'on n'était pas sûr de la descendance et de la transmission. C'est là qu'on commence à moins greffer, naturellement, tu vois, tout ce qui donne du temps, on est un peu plus sceptique, quoi. Alors que ça ne posait pas de problème avant, quoi. C'était d'une évidence folle. Il se casse quelque chose.
Et tu penses que c'est à ça que la musique a aussi souffert de ça, c'est-à-dire une forme d'abandon.
Ah, je pense, oui. Je pense qu'elle a perdu beaucoup de ses attributions, de son importance, qu'elle est plus, après 14, elle est plus liée au loisir, quoi. C'est aussi là, après, on invente en ville les congés payés, les vacances, l'idée de vacances. L'idée vacances, c'est la vacuité, c'est le vide, quoi. Mais un paysan ne peut pas être en vacances, quoi. Il ne peut pas avoir, non plus s'en aller, quoi. Il est là, il est attaché. Tu te rends compte ce que ça implique de différence. Effectivement, on invente là les prémices de la société de loisirs, et où effectivement il peut y avoir des choses d'agrément qui n'étaient pas pensées comme d'agrément avant, mais comme plus fondamentales. Moi je le crois, hein. Mais c'est en parlant comme ça qu'on réfléchit aussi à tous ces trucs-là, hein. On le sent, mais j'ai jamais eu envie d'écrire là-dessus, mais quand on en parle, effectivement ça me semble évident.
Comment tu vois l'avenir de la musique? Enfin, quand je te parler d'avenir, c'est
non, mais je vois aucun avenir dans le sens de ce que moi je souhaite et de ce qui m'importe, si tu veux. Quand je vois effectivement on a essayé sous la pression de son fils avec Serge, on a refait 2-3 balles, on s'est emmerdé, quoi. Tout ce swing, tout ce sautille, les jeunes n'ont plus de rapport n'ont plus de rapport à la terre. Voilà. La bourrée, c'est alors là, il faut. Là, je ne peux pas. Je peux pas en parler. Je peux que le faire voir, quoi. La bourrée. Tu es pas là à sautiquer, là. On vient de temps en temps, mais par une espèce de dérision, parce qu'on peut jouer aussi, on peut s'amuser de ça. Quand on est profondément de sa culture, il y a des moments où on peut ironiser autour, on peut la tourner en dérision, mais parce qu'on sait de quoi on parle, et puis on revient dedans. C'est pas gênant, ça, je veux dire. C'est pas une moquerie, c'est pas se moquer d'eux, c'est jouer. Et alors... Donc maintenant, ça tinta patipa tapatim pam pam un tiampa. Les Scottish sont devenus des foxtrots. Ils le savent pas, mais tam pam 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 patipa dipodam pam dim pam tam tam pam 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 pam. Tout est swingé. Et voilà. Alors ça donne quelque chose. On appelle ça le néotrad. C'est le néotrad. Mais bon, c'est ce qui sévit. C'est aussi une espèce de folkisme contre lequel on s'est battu, c'est-à-dire qu'on danse les danses de partout, quoi. C'est un grand mélange de tout. On est de nulle part et de partout et de tout, et voilà, et tout. Ce contre quoi on a voulu essayer de défendre quelque chose qui était propre à notre pays, c'est plus personne n'est de nulle part, et voilà, c'est le grand mouvement. Là aussi, c'est planétaire, quoi. Donc les cercles circassiens, alors beaucoup les danses en cercle, parce que c'est sympa, parce qu'on est tous ensemble, mais jamais on a dansé en cercle ici, ou peut-être, je ne sais pas, il y a 10 000 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas de mémoire d'homme. Non, on ne dansait pas en cercle, on n'est pas des Bretons, on n'est pas... C'est comme ça, quoi. C'est des danses d'îles, ça. C'est dans les îles ou les presqu'îles qu'on danse en cercle. Mais pas ici. On n'est pas là, c'est pas les Bretons, quoi. Pas du tout.
Pourquoi tu dis c'est des danses d'îles, ça m'intéresse. Ça.
Mais parce que c'est toujours dans les îles qu'on danse en cercle, parce qu'on est renfermé dans son île. Et les Bretons, c'est une île aussi. La presqu'île, c'est la même chose. Ils dansent en rond comme ça, partout. Les Sardes, les Grecs, les Grecs qui sont dans une presqu'île aussi. Hein. Ça danse.
Non, mais il y a beaucoup d'îles en Grèce. Hein.
Oui, non, mais c'est des gens qui savent ce que c'est que les îles.
Oui, ça c'est sûr. Oui, mais c'est vrai que...
Mais dans la montagne, quand on monte dans la montagne, on danse à deux, et de plus en plus, de plus en plus, on est là. C'est une espèce de dialogue à deux qui se fait. Déjà, quand je vois des bourrées à quatre ou à six, c'est des chorégraphies qui datent de... Oui, c'est encore un truc des groupes folkloriques, ça. Mais jamais traditionnellement, ça n'existe pas, quoi. C'est des choses récentes. C'est... La sautière aussi, qui est une danse assez importante aussi, mais ça se danse comme ça. C'est une espèce de joute amoureuse, si c'est entre hommes et femmes. Et si c'est d'hommes, on en découvre. À la fois, il y a une espèce de connivence et une espèce de lutte, quoi. Donc moi, je vois pas d'avenir. C'est-à-dire, c'est un avenir qui n'est pas le mien, donc je m'en fous. Je m'en fous. De toute façon, il se fait sans moi. Il y a plein de gens qui pratiquent la musique traditionnelle. Ils jouent tous pareil. Ils jouent tous la même chose. Ils jouent bien. Il y a un très haut niveau de... Mais sauf que quand Serge joue, si on connaît quelque chose, on sait que c'est Serge qui joue. Si je joue, on sait que c'est moi. Et eux, on ne sait pas qui c'est, parce que c'est vraiment très très bon. Mais qui est-ce? C'est parce que, justement, il y a tout un enseignement qui s'est mis en place, etc. On peut juger que c'est très bon, c'est très bien. Simplement, ils n'ont pas eu... On résout les problèmes pour eux. C'est-à-dire que c'est le prof qui indique la manière de s'en sortir, quoi. Et nous, avec Serge, il fallait qu'on se démerde. Si on était face à un problème, il fallait qu'on le résolve, mais à notre manière, qui était plus ou moins académique, surtout pas académique, mais au moins, c'était notre manière.
Tu penses que c'est presque une chance d'être autodidacte ?
Ah ben...
Ce serait très étrange de dire ça, parce que quand on te dit traditionnel, on imagine beaucoup une transmission, justement.
Oui. Oui, mais nous, on a... Nous, c'est parti. C'est, effectivement, tu as raison, c'est contradictoire. En plus, nous, parce que nous, on a dû tout recréer. Et par exemple, les filles aux aimeries, qui nous ont vu toujours jouer, elles ont, moi je leur ai donné une vielle, on leur a donné un accordéon, je leur ai donné deux violons aux filles, mais les deux violons, mon père avait acheté un autre violon, j'ai donné ça pour qu'elles puissent apprendre. Donc elles ont vécu un peu comme dans la tradition, parce que depuis qu'elles naissaient, elles voyaient Serge et Jean qui jouaient. Et donc elles ont été très vite pour apprendre d'ailleurs, mais elles ont appris en nous regardant, quoi, par imprégnation, comme ça devait se faire dans la tradition. C'est donc ça. Effectivement, là, on a refait une transmission, mais nous, rien ne nous avait été transmis, il a fallu qu'on réapprenne les choses. Mais du coup, ça nous a donné, sans doute parce qu'on avait aussi la foi et qu'on avait sans doute quelques dons aussi, ça a donné quelque chose de particulier, voilà, et que ça ne donne pas... Après, dans la tradition, je pense qu'il y avait des gens qui restituaient, qui avaient... J'imagine bien qu'il y avait un musicien qui passait dans un village, il voyait un gamin très intéressé, tu vois, qui le suivait, qui dans les yeux pétillaient, qui lui disait « Ah, tu voudrais essayer ?» Ça te plairait, hein, d'essayer ça. Ben, le gamin, il dit, oh, oui, ça me plairait bien. Bon. Alors, on lui faisait essayer, puis petit à petit, on lui donnait des bases, et puis ça serait le successeur, quoi. J'imagine, ça pouvait se passer comme ça. Donc, il prenait les manies du vieux, et puis il se créait son propre style. Par contre, il avait un respect absolu pour les airs qu'on lui apprenait, quoi. On bidouillait pas les trucs, sinon il n'y aurait pas eu de transmission, et on en serait où? Puisque maintenant, il faut que tout évolue, tout change, tout se métisse aussi, il y a ce fameux métissage, là. On n'arrête pas de mélanger la chèvre et le chou, c'est dans l'air du temps, quoi. Or, il y a des choses, écoute, oui. Jean-Marc, il y a des choses qui ont été... noté par Canteloube à la fin du 19e siècle, ou avant la guerre de 14 en tout cas, qu'on a retrouvé notamment dans le Codex Cadistinum, celui de Saint-Jacques du 12e siècle, qui n'avait pas bougé. En 7 siècles, ça n'avait pas bougé, c'est la même chose, c'est les mêmes chansons. Il a fallu une sacrée fidélité. Si chaque génération avait mis son grain de sel dans ce qu'elle recevait, plus rien ne ressemblerait. C'est une permanence, la tradition. C'est très lent. C'est-à-dire, maintenant, le métissage, les métissages, ils se font. Il y a toujours des métissages qui se font. Mais ils se font sans qu'on le veuille. Et là, c'est le métissage proclamé, idéologique, dogmatique. Il faut à tout prix mélanger les choses parce qu'on est tous frères, etc. Embrassons-nous, Folleville. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne fait rien de bon avec ce qui est programmé. Le métissage, il se fait s'il doit se faire. Mais pas parce qu'on l'a décidé.